Mais alors, il se remémora une phrase étrange que Juan Hernández Manao lui avait dite à Burgos au sujet des Malachim. « Là où vous irez, ils ne pourront pas vous suivre. » La chose lui avait paru fantasque à l'époque. À présent, elle semblait fantastique. Se pouvait-il qu'il s'agît bien de cela, qu'une force invisible l'empêcha d'avancer? Il ne peut physiquement pas entrer dans le monastère, balbutia Andreas. Et ce faisant, il essayait de s'en convaincre lui-même. Alors, nous devons assurément grimper à l'intérieur, répliqua Alice. Puis elle se mit à crier à son tour vers le haut de la muraille. Les voix des deux jeunes gens se mélangèrent. Mais ils eurent beau y mettre toute leur force, toute leur épouvante. Personne ne semblait vouloir les entendre. Andreas, quant à lui, ne pouvait détacher ses yeux du malard. Comme il n'était plus qu'à deux ou trois pas, Suriel sembla redoubler d'efforts pour continuer d'avancer, et conséquemment il hurlait. La figure déformée par la douleur, les muscles bandés par la peine. Ses yeux étaient injectés de sang, et il dévisageait Andreas en retour, comme s'il avait pu le tuer sur place d'un simple regard. Soudain, il y eut un bruit de grincement en haut des murs. Les trois compagnons levèrent la tête. Et enfin, comme par le nouveau prodige d'une délivrance inespérée, un large panier se mit à descendre vers eux et arriva bientôt au niveau du sol. « Montez !» ordonna Andreas en poussant les deux jeunes gens vers la nacelle. « Il n'y a pas de place pour nous trois !» Robin commença par refuser, mais l'apothicaire ne lui laissa guère le choix et le fit basculer à l'intérieur. Aussitôt, la corde les hissa vers le haut de la muraille. Andreas, le dos plaqué contre le mur, tourna de nouveau les yeux vers Suriel, lequel était si proche maintenant qu'il pouvait presque le toucher. Dans un travail qui sembla aussi surhumain qu'étaient inhumains les râles qu'il poussait, le malard souleva son épée au-dessus de sa tête. Les yeux écarquillés, le cœur battant à se rompre, Andreas se pressa de toutes ses forces contre la paroi de pierre, comme s'il eût pu la faire reculer davantage ou s'enfoncer dedans. Les mains du malard, alors, dressées vers les cieux, prêtes à frapper, se mirent à trembler étrangement. « Je ne sais pas de quels abysses tu es venu, » cracha Andreas avec dégoût. « Mais retourne-y, calamité !» Et alors, notre pauvre apothicaire fut saisi par la plus horrifiante vision. Juste devant lui, frappé par un ultime rayon de soleil cramoisi, la peau de Suriel sembla s'agiter toute seule, se gonfler, bouillir même. Puis des gouttes de sang se mirent à couler de sa bouche, de son nez, de ses oreilles et de ses yeux. Et son visage devint celui d'une chimère de l'Antiquité, d'un cerbère, d'un démon. Il était Abaddon, couvert des viscères de ses victimes. Il était Léviathan, se nourrissant des âmes à pleines dents. Il était Lucifer, tombé des nues, mutilé, abandonné. Il était Moloch. Il était le visage même de la monstruosité, et il s'abîmait en lui-même. Andreas, confronté aux limites infranchissables de sa raison, poussa son premier cri d'horreur. Au même moment, la nacelle réapparut à ses côtés. Luttant contre la tétanie que la peur lui avait insufflée, il se jeta dedans. Le panier s'enleva prestement au-dessus du sol, alors que Suriel, moribond, tombait lourdement sur les genoux. Lors, il y eut un bruit étourdissant, strident, comme un sifflement de sirène, qui obligea Andreas à se boucher les oreilles. Mais ses yeux, il ne put les détourner du spectacle incroyable qu'offrait encore sous lui le désert. Car voici, subitement, le corps du malard s'enflamma, s'embrasa dans un éclat de lumière et de bruit. Puis le sifflement perçant s'éteignit lentement, alors que le cadavre carbonisé du cavalier noir était encore secoué de derniers soubresauts. Et bientôt, ce ne fut plus qu'un tas sombre et informe, une dépouille fumante. Andreas, qui s'était écroulé à l'intérieur de la nacelle, tremblait de tout son corps. Son esprit, non,